peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, nous sommes encore une fois en direct.
On espère, oui, j'espère que ça fonctionne, donc toujours les joies, les aléas du direct, de savoir si on arrive à l'heure et si on arrive à faire l'émission en entier. Comme promis la semaine dernière, on va revenir une nouvelle fois sur la journée internationale des migrants, de solidarité avec les migrants et des migrants et des migrations. Qui a eu lieu jeudi dernier, en vous proposant d'écouter d'une part quelques prises de parole qui ont été effectuées sur la place de la République lors de cette journée. On reviendra bien sûr sur la manifestation qui s'est déroulée, puis sur les différentes perspectives et initiatives qui vont peut-être découler de cette journée, voire les prochains rendez-vous qui ont été posés. Mais pour commencer cette émission, nous voudrions avoir une pensée très très solidaire avec des camarades italiens de la ville de Turin, puisqu'on a appris le 18 décembre, donc il y a 4 jours, au moment où nous enregistrons, que le centre social Ashkatasuna avait été évacué, expulsé et placé sous scellé par environ 300 membres des forces de l'ordre, composés en grande partie de la police anti-émeute, mais aussi de la DIGOS, qui est la police politique italienne. Et ce, après une décision de la préfecture, l'équivalent de la préfecture, c'est pas comme ça que ça s'appelle, la Legatura, mais on va pas rentrer dans le système administratif italien. Alors pourquoi je vous parle de ce centre social? Peut-être que certains des auditeurs et des auditrices le connaissent, parce que pour quiconque a participé ou s'est rendu en Italie ou a pu côtoyer des luttes à la fois dans les Alpes, mais aussi en Italie, il est fort à propos que on soit passé par le centre social Ashkatasuna. Centre social Ashkatasuna, c'est certainement l'un des plus gros squats qui existe en Europe, hein, qui existe depuis 30 ans, 1996 très exactement, et qui appartient à la deuxième génération des centres sociaux italiens. Alors, les centres sociaux italiens sont des trucs vraiment hyper spécifiques à l'Italie. Au début des années 80, à la fin des années 70, il y a des gens qui sont dans le mouvement autonome, qui vont s'accaparer des espaces dans la ville et les transformer soit en salle de concert, en tous les cas en pôle de résistance culturelle et politique à l'intérieur des villes. Et malheureusement, la plupart d'entre eux seront évidemment expulsés, mais certains vont pouvoir rester, vont pouvoir vraiment se placer dans la ville. Et Ashkatasuna était un de ceux-là. Ashkatasuna était en plus un lieu qui était véritablement politique, dans le sens où il mettait en avant la primauté de son action politique plutôt que de son action culturelle, même si bien sûr il y avait une action culturelle et une action sociale. On parle ici de petits déjeuners gratuits, de cours du soir, etc., etc. Si vraiment on était extrêmement caricatural, on dirait c'est une sorte de MJC très très politisé.
Ce qu'on a dit dans les années 70-80 d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Mais avec une autogestion et une absence de lien avec les structures étatiques. Alors, cette expulsion, elle est en contradiction avec la politique de la municipalité turinoise, puisque la municipalité turinoise avait reconnu au mois de septembre le statut de bien commun à l'Ashkatasuna, le désignant comme faisant partie du patrimoine de la ville. Turin, c'est une ville très particulière. Enfin, toutes les villes sont particulières. Il y a pas de truc. Mais en fait, Turin, vous voyez bien, c'est évidemment une grosse puissance industrielle, avec les bagnoles, la Fiat.
La Fiat. Ouais.
Une énorme histoire politique antifasciste, dans le bon sens du terme, en Italie, mais aussi une grosse, grosse histoire politique, puisqu'il y a eu de gros contingents à la fois de lutte, mais aussi culturelle. Il y avait une très grande colonne des Brigades Rouges. Il y avait la Siat Semens aussi, donc il y avait vraiment une histoire ouvrière et une histoire de lutte. C'est aussi dans cette stratégie que l'Ashkatasuna, cette histoire, cette tradition, que l'Ashkatasuna, ça existait. Ashkatasuna, ça veut dire liberté en basque. Et donc, la municipalité avait reconnu le caractère patrimonial de cet Ashkatasuna. Et c'est la légature, donc la préfecture, qui a procédé à l'expulsion. Pourquoi ? Parce que quelques jours auparavant, au cours d'une manifestation en solidarité avec la Palestine, les locaux de la Stampa ont été occupés, envahis. La Stampa, c'est un grand journal italien, ça veut dire la presse en italien, donc c'est marqué dessus. Et il y a eu un peu de chahut dans cette occupation. Était reproché évidemment à la Stampa sa couverture éditoriale du conflit israélo-palestinien. Rien de très étonnant quand on voit la dominante du traitement médiatique en Europe et en Occident sur ce conflit. Et c'est cet prétexte qui a été pris, qui a été ce justificatif qui a été mis en avant en disant que c'était l'Ashkatasuna qui avait fomenté cette occupation, et que malgré son caractère culturel, politique et patrimonial, l'Ashkatasuna franchissait des limites, puisque non seulement elle portait atteinte à la liberté de la presse, puisque vous le savez, tous les journalistes sont libres, c'est bien connu. Et en plus, en utilisant ce type de méthode et en affichant son soutien à la Palestine et aux Palestiniens, elle se plaçait dangereusement sur la ligne d'un soutien au terrorisme et aux islamistes. Et on le voit, depuis 2 ans, on l'a connu en France, mais en Italie c'est encore pire, la cause palestinienne prétexte, ou en tout cas la solidarité avec la cause palestinienne, est prétexte pour le pouvoir à réprimer à tour de bras, vraiment de manière très très large et très 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 violente. Alors, l'Ashkatasuna, c'est un morceau, c'est un immeuble de 7 étages, c'est plus de 700 mètres carrés, c'est 30 ans de pratique sociale dans une ville et dans un quartier, donc ça va pas se passer comme ça, ça va pas se passer comme une lettre à la poste. L'Ashkatasuna, c'était un haut lieu de lutte contre le TAV, contre le train Alta Velocità, le TGV qui devait faire Lyon-Turin, et c'est aussi 30 ans de lutte. Cette semaine à Turin, ça va être très, 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 très chaud. Le soutien est très large, qu'il soit national, voire international, pour preuve. Et le collectif de l'Ashkatasuna a promis que dans le cas où il n'y aurait pas de retour sur les décisions de neutralisation du centre social qui sont prises, que le coût de la fermeture de ce centre social allait être incommensurable pour la ville et pour la préfecture. Quand on parle de coût, c'est évidemment le coût social, le coût politique, le coût matériel également. Et il appelle à tous ceux qui ont eu la chance de passer à l'Ashkatasuna et qui ont pu avoir le plaisir de s'accorder quelques heures, voire quelques jours, voire quelques semaines pour avoir partagé une partie de la vie de ce centre social, à faire leur cette lutte, à faire leur histoire et à faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, ce qui leur semblera bon pour pouvoir soutenir la lutte de centre social. On en reparlera, on verra ce qui se passera. Il n'est pas inenvisageable qu'il y ait des rassemblements devant les consulats d'Italie ou les ambassades d'Italie. On se tiendra au courant, mais voilà, je voulais moi faire 10 minutes là-dessus parce que pour moi c'était important. Et puis évidemment, c'est quelque chose qui me tenait personnellement à cœur. Donc voilà, revenu au sujet principal de notre émission, qui est le retour sur la journée du 18. Donc une belle après-midi parisienne, avec une place de la République remplie de midi jusqu'à 18h, le départ de la manifestation. Une manifestation pas si minable que ça, hein, 4 à 5 000 personnes qui étaient là. Pour un jour en semaine, c'est pas mal, surtout que, comme on l'a dit, c'était la plupart du temps des étrangers, des sans-papiers en lutte. Et cette manifestation, alors c'est une manifestation toujours extrêmement joyeuse et dynamique, comme on peut en avoir l'expérience avec ce type de manifestation, c'est sûr que ça nous change des manifestations syndicalo-merguez. Déjà la bouffe est pas pareille, mais en plus le ton est pas pareil, on voit clairement qu'il y a des gens qui sont à la fois heureux d'être là, qui sont en lutte pour quelque chose qui jouent leur peau, quoi, hein. Tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de ça. Et auparavant, à partir de 14h, il y a eu de nombreuses prises de parole des différents collectifs de sans-papiers, d'étrangers en lutte qui étaient là, mais aussi des collectifs de soutien. Signalons par ailleurs la présence extrêmement ridicule des syndicats, avec bien évidemment quelques bataillons de l'Union locale de la CGT 75 et de l'Union départementale, mais évidemment extrêmement peu de choses, très très peu de politique également, même pas le minimum syndical des permanents. Et puis on va dire somme toute, les secteurs où il y aurait pu avoir de grèves, hein, comme l'éducation nationale ou d'autres secteurs auxquels on pense, étaient assez peu représentés. Alors j'ai évidemment pas pris l'ensemble des 4 heures des interventions, j'en ai pioché comme ça au hasard. On va vous proposer d'en écouter quelques-unes au début, et puis on reviendra là-dessus et sur les différents types de luttes et la continuité qu'il y a. Camille, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer le son ?
Bonjour à tous, moi je prends la parole au nom de la FSE. Donc on est installé sur plusieurs campus parisiens, mais déjà je voudrais rappeler que le contexte raciste dans lequel l'État français publie beaucoup de plus en plus de lois au détriment des personnes étrangères, ça se passe aussi sur les universités, avec en 2019 la loi Bienvenue en France, une loi qui fixe les frais d'inscription à 3000 euros pour un étudiant étranger en licence et à 4000 euros pour un étudiant étranger en master, c'est-à-dire 16 fois plus qu'un étudiant français ou qui réside sur le territoire depuis plusieurs années. Cette loi, elle est purement raciste, et actuellement on en voit le prix que payent les étudiants, notamment à Paris 8, où on accompagne avec le collectif étudiants Paris 8 des étudiants étrangers sans papier qui se retrouvent à la rue et que le CROUS et l'université de Paris 8 refusent de loger, alors même que certains sont dans la rue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années pour une des étudiantes qui vit quotidiennement à la rue depuis presque 2 ans et demi. On a plusieurs fois interpellé l'université de Paris 8 et le CROUS qui refusent de loger ses étudiants parce qu'ils sont en situation irrégulière. Et il faut savoir que pour être régularisé en tant qu'étudiant étranger, il faut pouvoir prouver qu'on bénéficie de 615 euros par mois. Actuellement, très peu d'étudiants peuvent bénéficier de 615 euros par mois et encore plus un étudiant étranger. Cette mesure, elle a un unique but, éradiquer les étudiants étrangers de nos universités ou alors réserver l'université française à quelques étudiants étrangers qui sont issus de pays plus riches que la France ou en tout cas qui ont les moyens de venir étudier en France. Et cette mesure, ces mesures-là, on n'en veut pas. Elles sont là pour appauvrir l'université française, pour faire... couper l'accès à l'université à des dizaines et des centaines d'entre nous. Et on se bat quotidiennement, on continuera à se battre contre ça. À Paris 8, on a interpellé récemment le CROUS pendant une conférence sur la santé mentale des étudiantes. Durant cette conférence, durant la réunion qui a suivi, ils ont été incapables de nous trouver des solutions pour des étudiants qui sont à la rue, alors même qu'on approche l'hiver. Et tout ça, il faut se rappeler que c'est dans un contexte où les universités françaises elles subissent de plus en plus de coupes budgétaires. Et les dernières universités qui n'appliquaient pas cette loi raciste, cette loi Bienvenue en France, sont en train de la mettre en place pour combler leur déficit budgétaire. Les étudiants étrangers, c'est pas quelque chose sur lequel, enfin, c'est pas des individus sur lesquels se faire de l'argent pour combler le déficit budgétaire qui doit venir de l'État. Du coup, ce qu'on revendique, c'est la fin de cette loi, c'est la fin de toutes les lois racistes qui empêchent la régularisation de toutes les personnes étrangères sur le territoire français, mais également plus de budget pour tous les services publics et moins pour la militarisation de la jeunesse.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Cassandra et je fais partie du Point Levé et je milite aujourd'hui dans mon université contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers depuis des semaines et des semaines, puisque justement cette journée, par exemple, elle a été dédiée à bloquer l'université de Paris 1 pour permettre aux étudiants de se mobiliser à l'occasion de cette journée et plus généralement vis-à-vis de cette mesure d'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Moi, je tiens à rappeler qu'elle s'inscrit dans une offensive bien plus globale pour les étudiants, c'est-à-dire et en particulier les étudiants étrangers, puisqu'on a vu qu'ils étaient visés par une restriction des APL et le doublement des frais de visa, ainsi que l'augmentation de la taxe pour l'accès au titre de séjour. Et donc, évidemment, ce sont ce genre de mesures qui sont des mesures antisociales, qui sont des mesures racistes que subissent les étrangers aujourd'hui, mais qui sont aussi justifiées en parallèle par des politiques austéritaires. Mais nous, on sait très bien, au Point Levé, que ce n'est qu'un prétexte à la fois pour justifier le racisme de ces mesures, mais aussi pour justifier le changement profond du modèle d'université dont les étudiants étrangers sont les premières victimes, mais duquel l'ensemble des étudiants, l'ensemble des travailleurs de l'université doivent se solidariser puisqu'il s'agit de changer plus profondément le modèle d'université. Et moi, je tiens à dire que je refuse d'étudier dans une université dans laquelle il va y avoir 3 000, 4 000 euros de frais d'inscription appliqués pour les étudiants étrangers et en parallèle d'étudier tranquillement. Et c'est pour ça qu'au Point Levé, on revendique l'accès gratuit et ouvert à tous les étudiants à l'université, mais aussi la fin de Bienvenue en France, la régularisation de tous les étudiants étrangers sans condition et l'accès sans restriction aux APL. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est très important, c'est que les coupes budgétaires qui légitiment aux yeux du gouvernement ce genre de mesures racistes, elles n'arrivent que parce qu'on choisit de mettre l'argent ailleurs. Et mettre l'argent ailleurs, ça implique de mettre l'argent dans la police et surtout dans l'armée. Je pense que vous avez vu les milliards qui partent de l'hôpital public, les milliards qui partent de l'université pour en mettre d'autres milliards dans les tanks qui permettent d'assurer la présence de l'impérialisme français dans les colonies et les ex-colonies. Ces interventions, elles permettent de maintenir l'impérialisme dans la France-Afrique, elles permettent de continuer à piller les ressources de tous les pays colonisés ou ex-colonisés pour les mettre au profit des patrons qui sont aujourd'hui soutenus par le gouvernement et ses politiques. Donc c'est pour ça qu'au Point Levé, on est avant tout international.
J'appelle Samba pour le collectif Sans Papier 93. Amada pour le collectif Sans Papier Montreuil. Également Sukuna Toumani, représentant des foyers de Montreuil, foyer Branly en lutte. Allison pour le travail social en grève depuis 3 jours. Et Olivier pour Sud-Éduc 93.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et merci pour votre solidarité. On sait très bien que la vie, c'est un combat. Moi, j'ai un point vraiment à signaler. Pour les patrons, ils ont vraiment une grande chance. Et vraiment, vraiment, ils profitent vraiment de l'occasion pour les sans-papiers. Et les promesses, ils travaillent de lundi jusqu'à lundi. On a des adhérents qui travaillent de lundi jusqu'à lundi. Et on donne des promesses qui soient régularisées, qui soient déclarées. Après 18 mois jusqu'à 2 ans, après vous quittez. Et une simple plainte, ah, vous n'avez pas le droit, monsieur. C'est ça le pire. Il faut être sur le champ pour voir les sans-papiers. Vraiment, c'est une souffrance. Et le deuxième point, c'est au niveau de la préfecture. Pour avoir un rendez-vous, il faut attendre 18 mois. Et pour déposer le dossier, vous allez cavaler et tourner autour du pont, un tourbillon d'un RCPC qui dure 2 ans, 3 ans. Après, en arrivant à 4 ans, allez au QTF, rentrez chez vous. Est-ce que vous trouvez ça normal, messieurs, dames? On est vraiment, vraiment, ça touche. Ça, c'est vraiment touchant. Franchement, on ne désespère pas déjà. On garde l'espoir et que la lutte continue. Et merci de m'avoir écouté.
Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je me présente à Amada Sibi. Je fais partie du collectif des sans-papiers de Montreuil. Un membre de l'intercollectif. Merci les camarades d'être nombreux ici aujourd'hui. C'est une journée pour nous, la journée internationale des migrants. Comme on avait organisé ça depuis, en avance, pour dire on doit être nombreux et nombreuses dans la rue, pour dire non à toutes ces lois qui nous criminalisent. Comme tout le monde le savent aujourd'hui, l'extrême droite n'arrête pas de parler sur l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas les papiers, ceux qui doivent bénéficier de cette aide médicale d'État pour pouvoir se soigner. Mais en même temps, la majorité de ces personnes, 96% des 700 papiers, ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts. Mais il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas encore bénéficié de l'aide médicale d'État. Par exemple, un sans-papier qui travaille plus de 10 ans ici en France, quand la sécurité sociale voit son revenu, ils coupent leur aide médicale d'État. Ils n'ont aucun droit encore pour pouvoir se soigner. Ces personnes, ils doivent avoir une carte vitale pour se soigner. En même temps, ces personnes, ils travaillent toujours pour cotiser encore. Ils cotisent, mais ils n'ont pas accès aux soins. Mais ils travaillent toujours pour cotiser. Après, l'extrême droite dit qu'on est venu pour profiter du système, de la système. C'est la système qui profite des sans-papiers. Voilà, parce que les sans-papiers, ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts. C'est le système qui profite de eux. En même temps, ils nous parlent encore de l'OQTF, OQTF. Ils ne savent pas comment ces gens-là, ils ont eu l'OQTF. Est-ce qu'ils ont commis un crime? Non. Est-ce que c'est des criminels? Non. Est-ce que c'est des voleurs? Non. C'est les travailleurs et les travailleuses. Par exemple, quand tu pars au travail, si tu tombes sur un contrôle de la police, on va t'emmener dans un commissariat, on va te donner un OQTF, IRTF. Un sans-papier qui fait son demande de la régularisation en cas de refus à la préfecture, on te donne automatiquement une obligation de quitter le territoire ou IRTF. C'est ça l'OQTF. 96% d'OQTF, ça n'a rien à voir avec la délinquance. Comme les détracteurs, ils disent que telle personne a une OQTF, pourquoi on l'explique? La personne, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est un innocent qu'on lui donne une OQTF. D'après Gérard Darmanin, il dit gentil avec le gentil, méchant avec le méchant, mais c'est le contraire. C'est le gentil avec le méchant, méchant avec le gentil. Le gentil, c'est qui? Les travailleurs sans papier. Quand on entend la France qui se lève tôt, c'est qui? C'est les travailleurs sans papier qui remplissent les métros de 1 heure. Quand tu te réveilles à 4 heures, à 5 heures du matin, c'est eux. Mais aujourd'hui, ces personnes, leurs droits de la régularisation sont piétinés. Tout le monde a vu la circulaire Retailleau, une circulaire raciste et fasciste, discriminatoire. Donc, on dit égaux, égal, personne n'est illégal. Égaux, égal, personne n'est illégal. Égaux, égal, personne n'est illégal. Merci beaucoup à tout le monde. Vive la régularisation, que la lutte continue.
Et je me présente, je m'appelle Nzukuna Toumani. Et je suis au comité d'Edouard Ibrahim. Et on a eu des luttes avec notre actionnaire, l'ADOMA, ça fait 3 ans. On a eu un problème avec ces actionnaires-là. Donc on demande tous les soutiens et toutes les associations et ceux qui luttent qu'on a eu. On a besoin de coups de main pour les Adoma, il va baisser son bras. Parce que ça fait 3 ans, on a eu avec ces luttes pour que les nouveaux incidents que l'Adoma a annoncé pour qu'on va, il va faire des nouveaux incidents pour changer des foyers. Bon, on a montré des 4 revendications pour que l'Adoma il va laisser à notre revendication, mais l'ADOMA n'a pas accepté. Bon, on demande les aides, toutes les associations, avec tous les partenaires, pour notre revendication il va passer par niveau de ADEMA. Bon, moi, je représente avec mes collègues, avec mes soutiens aussi, il va donner les 2 mots avec vous. C'est Véronique, merci.
Bon, juste un mot pour dire qu'il y a un comité de soutien qui s'est constitué donc pour soutenir les résidents du foyer Branly. Et on a besoin de tout le monde. La situation est difficile pour les habitants du foyer, plus de 400 personnes. Le déménagement est prévu le 5 janvier, du 5 au 15 janvier. Et on vous appelle à venir les soutenir. On va distribuer des tracts et si vous pouvez venir le 5 janvier les soutenir et voilà, et merci. Donc Alison, je suis assistante sociale, voilà, je suis présente avec plusieurs de mes camarades travailleurs et travailleuses socio-sociales. On est là plusieurs à être en grève depuis mardi. Nous aussi, on en a marre de cette société-là. On représente là sur la région Île-de-France un collectif qui s'est monté en 2017. Nous sommes des travailleurs sociaux, sociales, des étudiants futurs travailleurs sociaux. Un collectif qu'on a essayé le plus unitaire possible, syndiqué, non syndiqué. Et on veut regrouper toutes les personnes qui veulent lutter dans notre secteur. On a vu et on le voit tous les jours dans notre travail, c'est la casse de tout le système de solidarité actuel. La violence sociale, on la voit tous les jours auprès des personnes que l'on accompagne. On en a marre, on dit stop. Les journées sans lendemain, les journées saute-mouton, on en a marre aussi. Faire grève, c'est une de nos armes et la première. On pense que c'est pas dans les salons qu'on va obtenir satisfaction. On pense aussi que c'est en se mobilisant, en se mettant en grève régulièrement, qu'on pourra améliorer nos conditions de travail et ainsi les conditions d'accompagnement. Nous, on en a marre de nous dire d'appliquer des politiques sociales qui deviennent de plus en plus racistes, de plus en plus fascistes. Donc, on lutte avec les armes qu'on a et on voit que lutter dans nos lieux de travail, c'est pas suffisant parce qu'en fait, nous, on fait face à des ordres qui sont contradictoires. On fait ces métiers par conviction, mais on ne peut plus les faire correctement. Que ce soit à l'aide sociale à l'enfance, que ce soit dans l'urgence sociale, beaucoup de nos camarades qui sont écoutants du 115 étaient en grève ce mardi. Et ce n'est pas possible de devoir dire non toute la journée à des personnes. À l'heure actuelle, dans beaucoup de villes de France, si on est un mineur de plus de 3 ans, seulement 3 ans, nous n'avons plus le droit d'être hébergés. Voilà. Beaucoup de femmes isolées, de femmes enceintes se retrouvent aussi expulsées et à la rue. On en a marre de ne pas pouvoir accompagner correctement dignement les personnes. Donc c'était évident et normal qu'on soit là aussi pour notre troisième jour de grève. Et il faut savoir que depuis 2017, d'autres collectifs se sont montés en France. Et depuis, ça nous a également permis de soutenir les collectifs de mineurs isolés. Ça nous paraissait également évident. En fait, qu'on soit mineur, et d'autant plus quand on est vulnérable, avec des problèmes de santé ou non, français ou non, on doit pouvoir avoir les mêmes droits. L'aide médicale d'État, c'est un droit fondamental. Et on en a marre que l'État veuille supprimer ce droit-là. Ça fait partie, effectivement, des droits qui veulent être supprimés dans ces politiques de plus en plus racistes et qui sont en réalité plus sociales. Et il faut savoir que l'État, de plus en plus, avec ces organisations comme la préfecture, veut nous instrumentaliser. C'est bien pour ça qu'on a été et on est contre la loi Darmanin, la circulaire Retailleau, qui obligeait certains professionnels à faire de la délation dans des lieux d'hébergement pour dire qui était sans papier ou non. Des collègues à l'époque ont refusé de faire ça et ont cherché des stratégies aussi. Donc non, on dit qu'on ne veut pas faire de contrôle social. C'est pas notre travail, on ne s'est pas engagé pour ça. On est mal payé déjà et on doit faire notre travail correctement. C'est pas évident, mais on va continuer de le faire, on va continuer de se mobiliser. On veut de l'argent pour tous les services publics, pour toutes les associations qui accompagnent les personnes les plus vulnérables et les plus précaires. Plus de places d'hébergement, plus de places de logement pour tout le monde. Le logement est également un droit fondamental, comme avoir suffisamment de moyens financiers pour se nourrir. On voit aussi, bien sûr, au quotidien la violence de la préfecture pour les personnes qu'on accompagne. Du coup, on veut des budgets pour ces services publics. Et nous, ce qu'on aime bien dire, c'est des budgets pour le social, mais pas pour les rafales. Parce qu'on en a marre que les budgets, ils partent ailleurs, ils partent pour faire la guerre. On est contre la guerre, et la guerre qui crée aussi de plus en plus de misère sociale. Donc évidemment, il faut s'unir contre toute cette casse antisociale. Nos droits qui ont été conquis, ils sont aussi possiblement détruits. Donc il faut sauvegarder notre système de solidarité et aussi chercher à l'améliorer pour avoir de nouveaux droits. Donc restons toutes et tous ensemble et restons unis pour l'avenir.
Bonjour, je suis enseignant à Montreuil dans le 93, syndiqué à Sud Éducation et donc à Solidaire. Aujourd'hui, à l'école, nous sommes grévistes. Car aujourd'hui, si on s'arrête, tout s'arrête. On a tracté auprès des parents pour faire connaître et mobiliser pour cette journée internationale des migrants. Sur l'école et sur plein d'autres dans le département, il y a plein d'enseignants grévistes. Et des AESH, c'est les accompagnantes d'élèves en situation de handicap grévistes. Sur mon école, nos collègues AESH, elles sont toutes en grève. Elles travaillent pour l'État, des fois depuis 10 ans, 15 ans. Mais elles aussi, elles galèrent pour avoir des cartes de séjour. Elles doivent renouveler leur titre parfois tous les ans, tous les deux ans. Sur nos écoles, nous avons aussi des élèves dont les parents sont sans papier. Nous, enseignants, ça nous touche vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en grève. Pour nous, c'est une première journée. C'est que le début de la lutte. Je voulais vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous avez des alliés. Si on s'arrête tous, alors tout s'arrête. Régularisation de tous les sans-papiers. Détruisons le système raciste. Merci.
Bon, moi, je vais vous parler du collectif des jeunes du parc de Belleville. C'est des mineurs isolés qui sont originaires d'anciennes colonies françaises qui ont, il y a 2 ans, occupé une occupation importante à Paris. Et là, ils recommencent, puisque rien n'est résolu. Là, ils s'adressent beaucoup, non pas au RN, mais au PS, puisque la mairie de Paris, c'est Anne Hidalgo, qui leur a fait des promesses, mais en fait, il y a toujours 300 jeunes aujourd'hui qui dorment dans la rue, sous des tentes, à Paris. Donc la lutte continue. Généralement, ce sont des jeunes qui on leur refuse d'être mineurs, même s'ils ont des preuves. On leur refuse la plupart du temps d'être scolarisés. Ils ne peuvent pas se scolariser. On leur refuse tout. Bon, et finalement, ils sont décidés, il y a quelques années déjà, de se mettre en association et de mener une lutte contre l'État français, et ainsi que pour Paris. C'est la maire de Paris qui est visée.
Ouais. Alors, cet exemple est intéressant parce que c'est quelque chose qui se structure dans la longueur, puisque la question des MNA, donc des mineurs non accompagnés, elle a toujours été présente, mais elle a explosé au cours des 10-15 dernières années. Et la question de leur structuration en collectif de lutte, elle commence à se faire. Et en plus, elle a tendance à devenir de plus en plus autonome, puisque avant, cette question était souvent prise en charge par des soutiens extérieurs, une solidarité évidemment réelle et concrète, mais qui pouvait parfois empêcher le caractère subversif et mobilisatoire de ces collectifs. Et c'est ce qu'on a essayé de vous faire comprendre dans la diffusion des différentes prises de parole, hein, c'est que la question du statut administratif des étrangers sur le territoire, elle traverse l'ensemble des thématiques de la société, hein, santé, logement, éducation, etc., etc. Et l'offensive, elle est évidemment générale, sachant que bien évidemment, le problème initial, le problème intrinsèque, la question du statut administratif de ces personnes, à savoir des papiers ou pas des papiers, et ben a des conséquences terribles sur l'ensemble de leur vie, notamment sur le travail, sur l'école, etc. Donc c'était vraiment l'objectif, en tous les cas la tentative de cette journée de mobilisation, c'était de démontrer que ces personnes ne sont pas étrangères à la société, mais en constituent une partie non négligeable, mais surtout que leur statut, notamment par l'intermédiaire du travail, est indispensable au bon fonctionnement de cette société. C'était donc ce mot d'ordre, hein, si on s'arrête, tout s'arrête. C'était de montrer que l'étranger, il est peut-être étrange pour la préfecture et pour nous, parce qu'il ne parle pas la même langue, mais il est, on va dire, il a un rôle social fondamental dans le fonctionnement de cette société. Et c'est en prenant cette question par son bout social, par son acceptation sociale au sens large, avec tous les secteurs qui traversent, qu'on peut construire une réponse qui permettra peut-être d'engager un rapport de force avec l'État et avec les préfectures. Alors, ce que je sais, moi, c'est que tu l'as dit, il y a à l'intérieur des manifestations, parisienne, et auparavant des discussions qui disaient qu'il n'était pas question d'en rester là. Alors évidemment, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Il va y avoir des initiatives, donc il y a ce collectif des jeunes du parc de Belleville qui appelle donc à des occupations. Il y a les collectifs de sans-papiers. Alors là, on a eu pêle-mêle, donc la coordination des sans-papiers du 75, les sans-papiers de Montreuil. Il y a des sans-papiers aussi à l'échelon départemental dans le Val-de-Marne. Il y a des collectifs de sans-papiers à l'échelon des arrondissements, hein, celui du 17e notamment. Il y a des collectifs de résidents de foyers. c'était sur le foyer du Quai Branly, où il y a aussi des attaques extrêmement fortes contre ce mode d'habitation des étrangers dans notre pays, puisque ces foyers, la plupart du temps, étaient... Alors, ce sont des foyers à Doma, donc l'ex-Sonacotra, mais le rapport de force permettait aux migrants et aux étrangers, aux habitants de ces foyers, d'avoir une certaine forme de co-gestion, voire même d'autogestion, et de gérer les places à l'intérieur de ces foyers. Et c'est ce biais-là aussi qui est attaqué. Hein. On aura peut-être l'occasion un jour de faire une émission avec une coordination qui s'appelle le COPAF, donc le collectif de solidarité sur les personnes qui habitent dans les foyers. C'est vraiment fondamental dans l'organisation de l'immigration aujourd'hui. Et c'est aussi un biais qui permet d'attaquer la possibilité à l'immigration au sens large de s'organiser politiquement, puisque les migrants ne sont pas des sujets passifs. Ce sont des sujets qui sont tout à fait capables de s'organiser pour agir pour leur propre compte et ainsi agir pour l'ensemble de la société. Il ne faut pas penser que parce qu'on maîtrise mal ou pas la langue, on n'a pas d'idée, on n'a pas, à partir du moment où on a un rapport social, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire avec ce rapport social. Et c'est très bien explicité notamment par les gens de Sud Éducation qui expliquaient que à l'intérieur du collège ou des écoles, les meilleurs grévistes en général, c'était celles qui étaient le plus précaires et qui avaient bien compris l'intérêt de bloquer le système par la grève. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'écouter la deuxième partie. Si, allons-y. On va continuer, on va être sur les mêmes thématiques, mais on va avoir aussi des collectifs de soutien qui se proposent d'élargir la question d'aujourd'hui, comment on traite la situation, et de voir comment cette réaction, ce mode réactionnaire, il est bien évidemment international et qui s'applique et qui se pose dans des politiques à l'échelon international. Camille, s'il te plaît, la partie 2, si ça fonctionne.
Et ici, aujourd'hui, on essaye de fêter, en quelque sorte, de profiter de la journée internationale de l'immigrant. Hier, on nous appelle des clandestins. Aujourd'hui, on nous appelle des sans-papiers. Demain, ils nous appellent déjà des voyous, ainsi de suite, en passant. Mais nous, notre combat, c'est de rester mobilisés et de regarder l'avenir et dire que non, ce que vous dites, c'est pas vrai. Nous sommes des travailleurs, nos enfants, ils sont bien réussis dans leurs études. On fait tout ce qu'on peut, on s'intègre, on est intégré. Donc, c'est à eux de changer leur politique, ainsi de suite. Merci beaucoup.
J'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix et Daniel, mon camarade, enchaînera. Voilà, donc on intervient à deux. Le JFP fait partie de nombreux collectifs anticoloniaux, comme vous pouvez le constater sur mon t-shirt BDS. Le JFP intervient dans trois directions. Contre le génocide, la politique génocidaire d'Israël faite au nom des Juifs du monde entier, ce qui, bien entendu, nous révolte. Nous intervenons aussi contre tous les racismes sans chercher ni à privilégier ni à minimiser l'antisémitisme. Il y a aujourd'hui des racismes extrêmement importants, le racisme anti-musulman et, de façon générale, tous les racismes contre les immigrés d'origine coloniale ou néocoloniale. Nous intervenons aussi contre les risques de fascisation qui se développent actuellement dans le monde entier et notamment en France. Quant à nous, notre mémoire en tant qu'association juive est ancrée dans le processus qui a conduit au judéocide nazi. Donc, nous savons de quoi nous parlons quand nous voyons aujourd'hui l'accentuation des discriminations racistes. Il y a lieu d'être particulièrement inquiet. Mais heureusement, il y a aussi des mobilisations, bien sûr. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on sait qu'on a la possibilité de se mobiliser. Et pour ça, je passe la parole à mon camarade Daniel.
Merci à tout le monde d'être ici présent. On voit bien que la marche des solidarités, dans laquelle l'Union juive française pour la paix est impliquée depuis des années, rassemble tellement de forces variées qui toutes convergent là pour l'unité contre le racisme. Et donc c'est un formidable espoir qu'on voit aujourd'hui. À l'Union juive française pour la paix, on est aussi engagé avec On bloque tout, quand il y a eu la volonté de faire face au gouvernement et à son déni de démocratie et à son budget le 10 septembre. Et le peuple, tous les fractions du peuple ont besoin de s'unir pour bloquer ensemble le pays et permettre de mettre fin à cette politique horrible. C'est pour ça que aujourd'hui est une étape. Moi, je peux aussi témoigner qu'en tant qu'enseignant, j'ai parlé de la marche des solidarités dans mon établissement et que les gens, comme j'ai mobilisé qu'il y a quelques jours, il n'y en a pas encore eu assez qui sont en grève, mais que la prochaine mobilisation de la marche des solidarités est en mars et qu'à ce moment-là, l'UJFP sera présente aux côtés de la marche des solidarités, aux côtés de On bloque tout, pour faire une formidable semaine de convergence des luttes, de blocage généralisé, afin de permettre à nos droits d'être présents et à notre mobilisation de vaincre.
Merci. Bonjour les camarades. Comme Mathieu l'a dit, je fais partie du collectif des jeunes de Pâques de Belleville. Ça fait 2 ans et plus que nous luttons. Nous menons une lutte farouche contre la mairie, contre les institutions françaises, contre l'État français, pour qu'ils nous trouvent une solution. Depuis qu'on a été expulsés à la Gaîté le 18 mars, nous avons tenté à maintes fois de dialoguer avec la mairie. Toutes les réunions qu'on a eues avec la mairie, elles n'ont pas abouti. Aujourd'hui, il y a plus de 300 jeunes qui dorment à 5 minutes de l'hôtel de ville à Pont-Marie. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui partent à l'école, qui dorment dehors, qui n'ont pas une carte Navigo, qui n'ont pas accès à la cantine. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes qui tombent malades, qui n'ont pas accès aux hôpitaux. Quand tu pars là-bas, on te demande une carte AME ou on te demande... Si tu n'es pas confié à l'aide sociale à l'enfance, t'es pas pris en charge. Donc pour nous c'est inacceptable. Donc c'est trop. Donc nous menons vraiment une lutte contre ça. Donc nous vous appelons tous à nous rejoindre à cette lutte. Et vraiment nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous et soyez prêts. Et quand je dis soyez prêts, ça va venir bientôt. Soyez prêts, s'il vous plaît, les camarades. Merci.
Thès pour l'AJMI.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais faire très court. Je prends la parole pour l'AFASTI. On est une association de solidarité avec toutes et tous les immigrés. On est présents et présentes à Paris et dans 40 villes en France. Aujourd'hui, je voudrais simplement saluer la mobilisation. La mobilisation d'abord de nombreux collectifs de premières concernées, collectif de sans-papiers, de minorisés et autres, mais aussi plus généralement 450 collectifs et organisations, associations, syndicats qui ont exprimé leur solidarité. Donc c'est vraiment formidable qu'on soit là aujourd'hui. Je pense qu'on peut se féliciter, on peut féliciter les personnes opprimées par le racisme d'État sous toutes ses formes qui sont là aujourd'hui, malgré les intimidations, malgré les répressions, malgré la peur. Donc c'est très bien qu'on soit là aujourd'hui, mais il faut continuer, c'est crucial dans le moment dans lequel on vit, cette période de fascisation, d'intensification du racisme d'État. Il faut qu'on continue, il faut qu'on leur barre la route, il faut qu'on dise stop. Et pour ça, il faut construire la mobilisation, il faut qu'on s'organise partout où on peut. Donc nous, on appelle à rejoindre la grève, à amplifier la mobilisation, à penser déjà à la suite, à ce qui va se passer en mars avec la Journée internationale contre le racisme, avec les collectifs de sans-papiers, les familles de victimes de violences policières. Et puis, il y a aussi les moments d'hommage. Et on voudrait aussi signaler la date du 6 février, qui est la date annuelle du rassemblement en hommage aux personnes exilées qui sont mortes sur les parcours de migration, notamment dans la Méditerranée. Ça se passera le 6 février à 18h30, ici même, à République. Je vous remercie. Continuons la lutte. Si on s'arrête, tout s'arrête.
Alors voilà, c'était une manière de tracer, d'essayer de vous donner un échantillon le plus représentatif possible, mais en restant dans des thématiques qui nous intéressent, qui sont évidemment celles du travail, évidemment celles de la question internationale, et bien sûr, comme le représentait le camarade de la FASTI, de l'ensemble de ceux qui sont aux côtés dans les associations en solidarité avec les migrants. Et je pense que ce qui a été compris, alors pardon, je me répète un peu, mais ce qui a été compris au cours de cette journée, c'est cette question de retrait et de grève qui semblait vraiment réapparaître ou apparaître, parce que peut-être que elle a jamais disparu, mais comme étant un point central. Est-ce que toi, tu as souvenir de grèves spécifiques liées à l'immigration à l'échelon national avec ce côté politique ? Non ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, ça a été une grande surprise de voir ce qui s'est passé là. Ça a été annoncé depuis plusieurs mois. Je pensais que c'était super important. Apparemment, ça a quand même été une réussite. On peut faire mieux, je pense. L'immigration peut faire mieux. Elle peut montrer aussi qu'elle représente quelque chose qui est incontournable pour le fonctionnement français de la France, tout simplement, au niveau de tout ce qui nous entoure. Heureusement qu'il y a les sans-papiers, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a les immigrés. Heureusement que, etc. N'empêche que, bon, il faut qu'ils soient visibles. Et ça, ils ont raison de se rendre visible. Alors moi, je crois qu'historiquement, par contre, le mois de décembre a toujours été un moment fort pour la solidarité avec l'immigration. Quand on regarde bien ce qui s'est passé en 80, soit dans les années 70, dans les années 80, il y a eu effectivement l'égalité des droits qui a été au centre de toutes les mobilisations qui ont eu lieu. Et bon, c'était difficile parce qu'à cette époque-là, et encore, c'est moins maintenant d'ailleurs, à cette époque-là, l'immigration avait du mal à être autonome, avait du mal à faire en sorte d'être décideur de ses actions. Et la plupart du temps, c'était les solidarités, les organisations solidaires, en particulier de gauche, qui faisaient le boulot évidemment, mais elles faisaient le boulot d'une manière pas du tout gratuite, hein, c'était
et oui.
Donc là, ça a changé quand même, ça a changé puisque depuis des années, il y a des collectifs qui se sont montés, des collectifs de sans-papier, mais aussi des jeunes mineurs. Il y a aussi les gens dans les foyers. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont très très intéressantes. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'avenir. Enfin, on le disait il y a déjà 20 ans, 30 ans, que c'était l'avenir. Et là, c'est la preuve, quoi.
C'est ça. Ben, on espère que cette tendance à l'auto-organisation va continuer, va s'amplifier. Alors, il nous reste une minute. On va vous donner, ça va devenir une tradition maintenant au cours de toutes les semaines, des nouvelles de Zera. Donc cette réfugiée politique qui est en grève de la faim pour obtenir pour le coup ses papiers ou tout du moins un statut un peu moins branlant et bancal que celui qu'elle a actuellement, qui est un des récépissés et des titres de séjour de 3 mois. Donc Zera devait passer en audience le 15 décembre devant le tribunal administratif de Melun pour avoir des nouvelles et plaider sa cause, et le procureur a demandé un ajournement et a repoussé sa décision, en tous les cas la comparution, l'audience, pardon, au 11 janvier.
Au 11 ou 12, ouais.
Ouais, c'est ça, au 11 janvier. Au 12 janvier, t'as raison. Et Vera a décidé de poursuivre sa grève de la faim. Elle en est aujourd'hui à 167 jours, donc c'est ça, 163 jeudi, donc 168 jours. Aux limites physiologiques et physiques de ce qu'on peut avoir. Mais Vera, dans sa déclaration, a dit que l'État français, l'impérialisme français, lui avait déclaré la guerre et qu'elle acceptait de le combat et qu'elle, elle était une combattante et elle savait ce qu'elle voulait, elle savait ce qu'elle faisait. Donc, prochain rendez-vous le 11 janvier. On espère que d'ici là, il y aura peut-être des avancées. On verra, on vous tiendra au courant, évidemment. Dans tous les cas... une bonne fin d'année, hein, soyez raisonnables.
Nous ne serons pas à la radio les deux lundi.
Eh ben oui, il faut bien que les travailleurs du son et de l'audiovisuel prennent aussi des vacances.
Mais on revient.
On revient avec un programme encore plus fourni et savoureux.
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 Radio et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Faites votre radio vous-même. Fast, running.